des poches sous les yeux, l'émission.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi, c'est l'heure de retrouver la fine équipe de Des Poches Sous les Yeux, l'émission avec son plein de chroniques, de livres, de bandes dessinées et d'interviews. Ce mois-ci, Des Poches Sous les Yeux n'est pas malheureusement au Korean Tour Festival. Oui, c'était prévu, on avait tout réglé, on avait fait un contrat, mais au dernier moment, ils m'ont imposé le cosplay et ça, c'était pas possible. Dans ce mois-ci, nous avons déposé nos valises à la médiathèque Paul Carla, 6 10 Place 9 à Tours, au cœur du Sanitas. Alors, le Sanitas, tout le monde connaît, mais moins nombreux sont ceux qui savent qu'il y a une super bibliothèque qui s'y trouve, et encore moins nombreux sont ceux qui savent qui était Paul Carla qui lui a donné son nom. Voilà, gageons qu'au terme de cette heure d'émission, ce mystère insondable soit résolu par la force de nos chroniqueurs ou la sagacité de nos intervenants. Et pour une fois, et nous n'allons pas commencer par l'interview de nos hôtes, et c'est Pascal qui ouvre le bal en recevant Michel Embarek.
Alors moi je sais qui est Paul Carla, naturellement, parce que j'ai connu Paul Carla. Bon, mais c'est pas le sujet. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors pour les bétonneux des premières heures, tu n'es pas un inconnu puisque tu y as été animateur dans les années 80. Michel Embarek, notre Philippe Manœuvre à nous, les lunettes noires en moins. Michel Embarek, ex-journaliste à Best. La dernière fois que je t'ai interviewé, c'était en 2015 pour ton polar « Personne ne court plus vite qu'une balle ». Tu es là pour la réédition de Rock en vrac qui est paru tout récemment aux éditions Relatives, un bouquin qui revient sur tes années Best, une carrière qui a commencé un peu par hasard.
Ah, même totalement par hasard, puisque j'ai répondu à une petite annonce qui cherchait des journalistes pour participer à une revue musicale de toutes les musiques. Finalement, cette revue qui devait être montée par un animateur de France Musique ne s'est pas faite. Donc moi, je me suis retrouvé avec une interview d'un ancien manager de Gene Vincent, une interview d'au moins 10 ou 12 feuillets sur les bras. Je savais pas quoi en faire. J'ai mis ça dans une enveloppe, j'ai adressé ça au journal Best et j'ai reçu un télégramme. À l'époque, je n'avais pas de téléphone et tout. J'ai reçu un télégramme me disant que oui, on allait prendre mon interview et que si je venais à Paris, je pouvais toujours passer voir le rédacteur en chef, qu'il aimerait bien me connaître et peut-être me donner du travail.
Alors, le premier chapitre s'appelle « J'y étais », histoire d'enfoncer le clou, l'histoire du rock des années 70-80, tu l'as vécu pleine face.
Oui, oui, bah oui, c'était mon travail. Voilà, aller au concert, boire des coups au bar, discuter avec les musiciens, faire des photos, c'était mon travail.
C'est trop dur.
Alors, un roman... C'était pas facile tous les jours, ou enfin toutes les nuits.
Un roman bourré d'anecdotes, de rencontres, de moments d'intimité avec les artistes. Ouais. Sans jouer les papy boomers, c'était plus facile de rencontrer les groupes en ces temps-là ?
Ah bah oui, ça posait aucun problème. Dire par exemple, on va prendre le punk. Une anecdote qui est dans le livre. Le 24 décembre de je ne sais quelle année, je passe à l'Open Market récupérer un disque que j'avais demandé à Marc Zermati de chercher. C'était l'album solo de, comment il s'appelait, le chanteur de Third World War. Ça dit rien à personne. Maintenant, on appelle ça un groupe proto-punk. Marc me dit il y a des gamins anglais qui sont là avec Malcolm McLaren. Dis-moi ce que t'en penses. Alors je monte, il y a Malcolm McLaren avec deux viandes pâles adolescentes écroulées sur un canapé. La cassette était complètement pourrave, il n'y avait rien à en tirer, mais ils avaient des photos et les photos elles crachaient bien, quoi. Il y avait quelque chose de nouveau dans les photos. Et donc j'ai dit à Marc, ouais, c'est pas con, il y a peut-être quelque chose et tout. Et c'était les futurs Sex Pistols. C'était facile de les rencontrer après. De la même façon, avec Clash, je me souviens d'avoir discuté longuement avec Joe Strummer devant le Dingwalls après un concert, en fumant un clope, en buvant une bière. C'était comme ça, voilà.
Alors, 74-83, on est en plein dans la vague punk anglaise, mais pas que, le pub rock aussi, puis des grosses pointures de gros rock type AC/DC et du reggae jamaïcain.
Alors AC/DC, un jour où j'étais de très très mauvaise humeur, j'ai reçu le premier album d'AC/DC, je l'ai écouté, ça correspondait tout à fait à mon humeur, je suis arrivé à Best, j'ai dit c'est vachement bien ce truc-là et tout, et là j'ai été intronisé spécialiste d'AC/DC. Mais ils étaient adorables. J'ai fait des tournées avec eux. Ils étaient ponctuels. quand ils disaient interview demain à 10h, ils étaient là à 10h autour de la table. Ils étaient ponctuels, sympas, marrants. Et puis ils adoraient le blues. Mais vraiment, donc ça nous faisait vraiment un sujet de discussion. Et puis le reggae, bah, c'est pareil. C'était nouveau, c'était bizarre.
T'as été un des premiers journalistes à aller squatter la Jamaïque.
Ouais, le premier à y être allé, c'est Francis Dordor. On s'était réparti les journaux. Francis y est allé pour Best. Alain Weiss, qui travaillait aussi à Best, y est allé pour Le Monde. Et moi, j'y suis allé pour Le Monde de la musique. Pour pas se marcher sur les pieds, on s'était réparti le marché. Mais on y est allé, oui, en même temps. Voilà. 78, je crois, ou 78.
Le début de la naissance, de la reconnaissance du reggae jamaïcain, quoi.
Ouais, c'est. En fait, en plus, il y avait un problème, c'est que. Pour les ventes de Best, ça vendait rien du tout, le reggae, quoi. Autant le hard rock, nous faisait vendre du papier, le reggae, ça accrochait pas, quoi. Rock et Folk, eux, ils ont carrément fait l'impasse, hein. Ils ont complètement laissé tomber, ou quasiment. Il y avait Lydie Barbarian, je crois qu'elle travaillait pour Rock et Folk. Mais non, c'était pas. Nous, on a beaucoup tartiné. Best a beaucoup tartiné sur le reggae.
Alors, un bouquin qui est plein de photos perso. Hein,
ouais, qui n'était jamais sorti de mes placards.
Hein, malgré que le photographe de Best ait quand même dit que tu n'étais pas un bon photographe.
Ah non, bah, parce que j'ai quand même réussi le ratage photo du siècle. Quoi. Je suis donc en tournée avec KCDC. Il y a une séance photo qui est prévue avec Angus Young. Ça se passe dans un couloir. Comment il se livre à toutes les pitreries possibles, etc., etc. Je dois faire trois rouleaux de 36 poses en quadri, quoi, en couleur. Et quand je les ramène à Paris, elles sont toutes ratées parce que j'avais pas vu qu'il y avait des néons dans le couloir et les photos étaient toutes bleues. Donc c'est à partir d'une de ces photos que le Jackie Souchu, le maquettiste de Best, a tiré un dessin qui a fait la couverture de Best. Voilà.
Quelles sont les rencontres qui t'ont marqué ?
Il y a un type avec qui je suis toujours en relation, c'est Bernard Lavillier. J'aimais bien Bachung aussi, parce qu'il était marrant, il était foutraque. J'aimais bien être avec ACDC. Bon, leur musique, c'était pas vraiment ma tasse de thé, mais ils étaient marrants. Enfin, je me souviens d'un bal costumé d'infirmière avec Bon Scott. On s'était bien marré ce soir-là, quoi, quand même.
Alors, justement, ce qui est remarquable dans ce livre, c'est ces moments d'intimité partagée, ces virées avec des musiciens, ou des écrivains d'ailleurs. Mais comment les provoquais-tu, ces rencontres, ces moments-là?
Mais c'était tout simple, on appelait la maison de disques où est le tourneur, on disait voilà, je veux rencontrer machin, truc et tout. Il disait bah ouais, mais comment on s'arrange? Alors tu disais bah je sais pas, vous payez le billet d'avion, nous on paye l'hôtel, et puis ça partait comme ça. Et puis il y avait, si c'était possible, il y avait une interview qui était calée, une séance photo.
Oui, mais je parle pas tellement des interviews, mais parce qu'en fait, j'ai déjà lu des livres de critique rock, entre guillemets, mais il n'y a pas ces moments de dérive.
Je sais pas, parce qu'on s'entendait bien et puis on partait. Il y a l'histoire avec Bo Diddley, par exemple. Elle est démente, cette histoire avec Bo Diddley. Je me retrouve avec un copain dans la loge de Bo Diddley à Rennes. Mais nous, on n'a strictement rien à lui dire à Bo Diddley. On sait que tout ce qu'on connaît, c'est Bo Diddley et Diddley Daddy. Quoi. On connaît deux morceaux de Bo Diddley. Et c'est lui qui fait le show. Il nous fait le show dans la loge. Il nous sort ses papiers, les photos de ses petits-enfants, le truc comme quoi il a acheté des bagnoles pour les flics de son bled, etc., etc. Puis au bout d'une heure ou trois quarts d'heure, comme ça, il nous dit « Les gars, j'ai le décalage horaire, je suis pas tout jeune et tout. Je vais piquer un somme. » On lui dit « Ouais, d'accord, monsieur Diddley, mais juste un truc. Est-ce qu'on peut toucher votre guitare ?»« Il n'y a pas de problème. » Donc il ouvre la caisse, on touche la guitare et tout, et puis on le remercie, on s'en va. Et là, il nous court après, il nous dit « Hey les gars, vous voulez pas un autographe ?» Ben, c'était comme ça. Alors j'ai un autographe de Bo Diddley, mais je sais pas où il est. Dans mon merdier.
Bon alors, le rock, c'était mieux avant ou pas alors?
Moi, je sais pas. Moi, je dis pas que c'était mieux avant parce que j'ai continué à écouter beaucoup de musique. Mais la musique que j'écoute, bon, on doit être 12 à l'écouter en France.
Il y a encore des groupes d'aujourd'hui, là, la musique d'aujourd'hui qui te font vibrer.
Oui, Calexico, par exemple. J'adore ça. La musique qui se fait à la Nouvelle-Orléans. Et puis, voilà, des groupes comme Calexico. Pour moi, c'est vraiment un très grand groupe. J'adore ce groupe.
Alors, rapidement, mais tu évoques aussi, il y a tout plein de chapitres aussi sur des rencontres avec des écrivains, hein, notamment en Louisiane. Hein,
oui.
Ce sont des interviews qui ont été faites du temps de tes années Best ou temps de ta résidence littéraire en Louisiane.
Non, c'est beaucoup plus tard. En gros, je suis resté 6 mois en Louisiane, en 2 fois. Et oui, ça s'est fait. Donc, c'est fin des années 90. C'est beaucoup plus tard. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce livre était épuisé depuis au moins 10 ans. Et je tenais à ce qu'il soit réédité parce que entre la fin de Best et aujourd'hui, enfin les années 2010, j'avais écrit un certain nombre de nouvelles que j'avais données. Il n'y avait rien de payant. Des nouvelles auxquelles je tenais, que j'avais données à des fanzines, à des ouvrages collectifs, à des quotidiens. Et ces nouvelles, elles étaient dispersées. Il y en avait 6 ou 7 qui étaient comme, dont certaines, une sur la souris déglinguée, une sur les Doors, une sur Trombone Shorty. Tiens, Trombone Shorty, c'est quelque chose que j'écoute.
Sur Mick Jagger.
Une sur Mick Jagger, mais ça m'était inspiré en Touraine quand je voyais Mick Jagger faire du vélo le long du Cher. Et ces nouvelles, je tenais à ce qu'elles soient réunies dans un livre, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 80 pages de plus que l'édition originale, avec
Petite nouvelle des étoiles.
Voilà, des nouvelles et des photos. Nouvelles. Et c'est Mick Jagger, VTT le long du Cher. Et un jour, sur la place de la mairie, à Athée-sur-Cher, il m'a demandé où étaient les toilettes publiques.
Oh my God.
C'est aussi pour rappeler que tu as changé de métier et que maintenant tu es écrivain.
Oui, retraité. Enfin oui, je suis écrivain, oui, mais...
Il n'y a pas de retraite pour les écrivains, tu sais bien. Un petit conseil de lecture ?
Alors, oui, le dernier livre que j'ai lu avec délectation, c'est « Les vivants et les morts, 20 ans après ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de « Les vivants et les morts », qui était un magnifique roman populaire de Gérard Mordilla. 20 ans plus tard, il a retrouvé les personnages de ce roman, « Les vivants et les morts », et il vient de sortir, là, il y a un mois, « Les vivants et les morts, 20 ans après ». C'est chez Calman Levy. C'est un formidable roman populaire, très bien écrit, très maîtrisé, ça se déguste.
Merci Michel. Alors, comme pause musicale qui va suivre, hein, on a calé quelque chose qui passe au festival Au Quart d'Hiver qui aura lieu la semaine prochaine, hein, au Point Haut, et on a calé les Dynamite Shakers,
oui,
que tu cites dans...
Oui. C'est quand même très proche des Dogs pour moi.
Très bien.
Voilà.
Eh ben, approuvé par Michel Ambarek, Dynamite Shakers, qui seront sur la scène du Point Haut. Perfectly well.
perfectly well that you've got the tickets. I get on every time hoping you'll come with me. I'll never catch that hand that's just above my head. But I want you to see this. I know perfectly well that you've got the ticket. I get on every time hoping you'll come with me. I'll never catch that hand that's just above my head. But I want you to see.
Et vous êtes bien sur Radio Béton 93.6 en direct de la bibliothèque Paul Carla à Tours. Mais qui est ce Paul Carla, bon Dieu ? Allez, on continue avec un habitué des bibliothèques et que l'on a le plaisir de retrouver après plusieurs mois d'absence. C'est Rémix qui s'est rendu en Bretagne sur un champ de bataille.
Mais avant, je tiens à préciser que je sais qui c'est Paul Carla, moi.
Alors le suspense ?
Bah oui, ouais, à la fin. Champ de bataille, bah, c'est l'histoire enfouie du remembrement. C'est une coédition Delcourt et la revue dessinée. L'auteur, c'est Inès Leroux, dessiné par Pierre Van Hove. Cette docu-BD nous détaille l'histoire du remembrement des campagnes françaises. Mais au fait, c'est quoi le remembrement ? Avant, majoritairement, les surfaces cultivables étaient partagées en petites parcelles. Elles furent rassemblées pour être plus facilement travaillées, détruisant au passage et talus, détournant parfois des rivières avec des conséquences écologiques désastreuses. Sur le plan économique, la répartition après réorganisation des parcelles ne sont pas faits, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la plus grande transparence. Le but était de faire passer la France d'une agriculture paysanne à une France de la culture intensive et du rendement. Mais pas sans casse, évidemment. On peut considérer pour le monde paysan que le remembrement comme un plan social qui ne dit pas son nom. De 1946 à 1974, il y a eu 4 millions de paysans en moins. Démarré dans les années 50, c'est à la base une idée du gouvernement du maréchal Pétain.
Bah voilà,
après. Mais après-guerre,
c'est pas étonnant.
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, ce sont les mêmes qui avaient commencé à réfléchir sur le sujet sous le régime de Vichy, qui ont mis en place la politique volontariste du général de Gaulle. L'objectif ? Améliorer l'accessibilité des champs pour les machines, rationaliser les pratiques et industrialiser les méthodes.
Tout ça, c'est positif, ça, moi, je dis.
Fallait nourrir la France.
Fallait que la France soit un pays exportateur
De produits agricoles. Mais bien sûr.
Ça ne s'est pas fait que... Il y a quand même une certaine résistance qui a vu rapidement le jour. La restructuration a continué malgré tout inexorablement, laissant une énorme partie de la population sur le bord du chemin et créant une fracture sociale dans les campagnes. Lisez cette BD, elle est édifiante. Je ne vais pas vous détailler chaque page de ce livre tant il est riche en informations historiques, géologiques, politiques. Heureusement, certaines régions commencent à faire marche arrière, ce qui laisse un peu d'espoir. Tiens, au fait, vous savez qu'aujourd'hui, c'est à Paris que s'ouvre le Paris International Agricultural Show.
Repeat again.
Paris International Agricultural Show.
Oh yeah.
Yes.
Le salon de l'agriculture, quoi.
Magnifique.
Et champ de bataille, il sera en vente. J'aimerais bien avoir le ressenti du monde agricole actuel sur cette BD. Voilà.
Et donc, tu vas t'y rendre pour faire des interviews ?
Non, je vais simplement regarder sur le site de l'éditeur.
D'accord.
Qu'ils en disent. Ah, petit détail, cette BD actuellement, depuis le début de l'année, c'est la BD qui se vend le plus en France. Champ de bataille, c'est l'histoire enfouie du remembrement. C'est une coédition Delcourt, la revue dessinée.
Et alors, c'est qui l'auteur ?
Eh ben, l'auteur, c'est Inès Leroux et le dessinateur, c'est Pierre Van Hove. Et précédemment, Inès, c'est elle qui nous avait fait ce magnifique livre qui s'appelle sur les algues vertes.
D'accord. Déjà en Bretagne,
déjà par la revue dessinée. Et déjà, c'était un truc qui avait un peu remué les...
Absolument. Avec une très belle... avec une adaptation au cinéma.
Et champ de bataille... mes sources d'information me disent qu'il y a aussi un magnifique documentaire qui vient d'être tourné.
Bah, c'est magnifique.
Donc on va apprendre plein de choses sur le monde agricole.
Merci Pascal. on va retrouver Jimmy après un petit crochet en Bretagne. Je pense qu'on va partir encore en voyage dans le temps, dans l'espace.
On va rester un petit peu en mer, pas tout le temps, mais un petit peu. J'ai lu un bouquin de Yann Lépoux, Pour mourir, le monde, c'est édité chez J'ai lu. Donc Pour mourir, le monde, en effet, au 17e, voyager à travers le monde, que ce soit par choix ou pas, était hautement aventureux. Le 17e siècle, c'est l'époque où le Portugal et l'Espagne se partagent le monde. À l'ouest, l'Espagne, à l'est, le Portugal. Selon le traité de Tordesillas, qui coupait le monde en deux comme une orange.
Olé.
Voilà, une orange parce que quand même c'est le monde ibérique. Hein, voilà.
Qu'est-ce
Rappelez-vous bien, l'objectif de Magellan était de rejoindre et prouver que l'archipel des Moluques se situait dans l'aire de partage portugaise. Et ainsi, faire main basse sur ce producteur exclusif de clou de girofle en Indonésie. Alors, il y était à quelques degrés près, mais à quelques degrés près seulement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Hein. Pour connaître sa longitude exacte, ce n'était pas super simple. Et les techniques de navigation qui restaient rudimentaires, des cartes très imprécises, quand elles existaient, ce qui n'était pas le cas pour Magellan. Au XVIIe siècle, la navigation n'a pas beaucoup évolué depuis Magellan, qui était un petit peu avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez chronologiquement. Hein, voilà. Mais on affrète beaucoup de bateaux vers les côtes de l'Afrique, de l'Inde et du Brésil. Les comptoirs portugais exportent les épices, le poivre, la cannelle, les matières précieuses, les tissus de valeur et les esclaves. Toutes ces richesses qui transitent par ces routes maritimes attisent les convoitises, forcément. Forcément. Pirates et corsaires s'ajoutent au risque de naufrage fréquent sur ces bateaux lourds et peu manœuvrables. Bref, une aventure bien plus risquée que les performances télévisuelles de Mike Horn à la télé. Pour certains, l'aventure n'est pas un choix. À bord, il faut des marins, oui, certes, mais il faut aussi des soldats pour défendre le bateau contre les Anglais ou les Hollandais. Parfois recrutés de force, parfois sans attache, voire en cavale, cette troupe va devoir survivre jusqu'au port de destination et au-delà. Pour mourir, le monde sauf à eux. En fait, c'est un peu ça le bouquin. C'est tiré d'un poème, vous verrez en première page. Donc, pour mourir, le monde sauf à eux. En effet, la mort peut vous prendre partout, quelle que soit votre condition. Le scorbut, une balle de mousquet, une sagaie indigène, l'inquisition, la malaria, une tempête, les soldats avinés, les intrigues, les options ne manquent pas. Yann Lépoux nous fait parcourir ce monde du XVIIe siècle à travers cet empire ibérique, depuis les côtes du Brésil à Goa, en passant par le littoral africain et les côtes landaises. On suit différents personnages au sillage plus ou moins chaotique, que ce soit au Brésil, à Goa ou dans les Landes, des jeunes gens pleins de vie jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Des parcours de vie croisés, semés d'embûches par les puissants, des enjeux commerciaux ou politiques, des obstacles à travers lesquels il faut louvoyer, des choix incertains, des amours déchirés, des fortunes perdues. Bien mené, le récit nous fait parcourir ce monde dangereux où la vie n'est que hasard. Un style aéré, un vocabulaire précis et documenté, pas d'histoire de cardan, etc., comme j'ai pu le faire sur d'autres bouquins. Hein. Donc, tout est... c'est super bien. Donc, c'est très précis et documenté. Et ça nous plonge au cœur de cette vie qui se conjugue au présent exclusivement. Un style long en bouche qui m'a parfois dérouté avec délicatesse.
Oh.
C'est pas mal. Hein. J'aimais bien la formule. Ouais, voilà, j'aimais bien la formule.
Bien fait.
Je conseille pour les amateurs de romans historiques, hein, de marine à voile, bien sûr, et d'exotisme épicé. Yann Lépoux a donc signé une belle tranche de vie. L'histoire vue par la piétaille, une histoire où on a les fièvres, où on a faim, où on pue. On est vraiment dans la vie, quoi. Hein, parce que dans les cales des bateaux, c'est voilà. Une histoire dont on espère sortir vivant, sans trop de séquelles. Au moins jusqu'à demain.
Merci, Jimmy. Alors, revenons au XXIe siècle. Je vous propose un brin de trappe avec Uzi Freja qui sera aussi sur la scène d'Occard d'hiver le samedi prochain. Au point où, juste après les Dynamite Shakers qu'on a écouté tout à l'heure, on écoute Bang Bang.
My name is Uzi if I'm 22 years old. I got a motherfucker Gaza in my soul. I don't know wanna talk a shit to call me all close. I will never plastic, comes I'm in the magic, icky. I will never gonna sum to be. I don't wanna waste my time when the sum to be. I got a something in the clothes. You're a motherfucking horse, you're a motherfucker, motherfucker, motherfucker. Then that bitch is coming to go, they got to the make it. Some for the don't, so the games, so the ride, to the gums, so the motherfucker base, so the comes to the muck of the day. I'm gonna shine, I'm gonna whack it, I'm gonna.
the mic. Come with the best of the pepper, I get to the coast of the life. You better come to the night. I gotta bake it against. I'm gonna show down the bang of the bang. I'm gonna sink the bit, IG and end it. Come with the bang, bang, bang. I'm gonna flow space. I'm a mother full stage. I got grace on the hate. I'm the mother all say. I got swipe, swipe, swipe to the left. Make it dumb shit. I just swipe to the right. Come on, bang, bang. Get it like a shang, shang. I got clothes and a motherfucking bang. Yeah, that motherfucking hit. I'm gonna build a castle today. I'm gonna wander the fucking day. I'm gonna show, I'm gonna flows. I'm gonna make it a call for the day. I'm gonna make this cave. I got a case, but for the day. I'm gonna who's such a video that comes to a better go.
La trappe, c'est de la frappe. Si on se faisait une petite saga, enfin une petite saga, 1000 pages, c'est pas petit, n'est-ce pas Nadia ?
Voilà. Donc ça faisait 8 ans qu'on l'attendait, il est paru en novembre au Seuil. Il s'agit du dernier ouvrage de John Irving, Les fantômes de l'hôtel Jérôme, 1,4 kg, et donc pratiquement 1000 pages. Mais les lecteurs de John Irving ont l'habitude des gros pavés. Il fallait bien ça pour raconter l'histoire d'Adam et de sa famille, de sa naissance, des années 40 jusqu'à nos jours. Est-ce que tout commence à Aspen, dans le Colorado, à l'hôtel Jérôme, où sa mère est une jolie petite femme monitrice de ski, surnommée Little Ray. En tout cas, c'est encore un secret de famille qui, selon sa cousine Nora, serait lié à des histoires de sexe. Little Ray est une mère célibataire et se fiche bien de la réprobation de certains membres de sa famille et de la communauté d'Excester. Toujours selon Nora, Little Ray a des couilles et des grosses. Pendant les 6 mois de la saison de ski, Adam restait avec sa mère d'hiver, sa grand-mère Nana, qui lui lisait Moby Dick. C'est de là que lui est venu le projet de devenir écrivain, mais aussi son refus d'apprendre à skier. La raquette étant un bon compromis au ski, il a fait la connaissance d'un petit raquettiste, prof d'anglais, qui deviendra le mari de sa mère et le père qui l'attendait. Bon, dit comme ça, c'est très conventionnel, alors que justement, dans les histoires de John Irving, tout est hors cadre, fantasque, foutraque, loufoque, drôle, émouvant. Les parents d'Adam, comme sa cousine, Nora, sont queer et d'une grande liberté dans leurs propos, comme dans leur choix de vie. Ces personnages, souvent tonitruants, sont-ils excessifs ou viennent-ils interroger la société américaine ? Adam, démocrate tendance Bernie Sanders, ne se prive pas d'une critique féroce de la politique des différents présidents et d'analyser les fractures dans la société américaine. Alors forcément, son propos prend un tour particulier suite à l'élection de Trump et ses déclarations concernant le genre. L'histoire d'Adam fait surtout écho à celle de l'auteur, même lieu, même parcours. On retrouve les thèmes qui lui sont chers, la quête du père, la sexualité, la lutte, mais voilà, chacun ses fantômes. John Irving émaille son histoire de 1000 détails, comme dans la vie. Peut-être que parfois il y en a trop, mais ce qui domine, ce sont les liens d'attachement entre ses personnages et la force de leur amour. Bref, avec tout ça, je ne vous ai pas raconté grand-chose de cette histoire, et je pense que c'est tant mieux, parce que la lecture des romans de John Irving est toujours une aventure. La première fois que j'ai lu un de ses livres, je me suis surprise à me dire « Tiens, on peut penser comme ça ». Voilà, il y a toujours de quoi se réjouir dans un roman de John Irving, alors ne craignez pas l'aventure. Ça s'appelle « Les fantômes de l'hôtel Jérôme » de John Irving au Seuil.
Merci beaucoup Nadia. Et, ça
et donne... je voulais ajouter que c'est un livre qui remplit pleinement le cahier des charges de notre camarade Olivier en termes de...
Slip.
Voilà.
Très bien, merci Nadia. Ça donne envie. On revient en France avec Odile.
Les nuits d'été de Thomas Flaho, paru chez Point. Pour moi, ce livre fait partie d'un genre, je ne sais pas si c'est un nom, un roman social, sauf que c'est... vraiment dans la lignée de, alors là je remonte vraiment à mes années collège, Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli, ou plus récemment À la ligne du regretté Joseph Pontus, ou Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas. même peut-être aussi un lien avec leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Donc voici un roman qui va parler des précaires, du travail à la chaîne, de la France d'en bas, mais attention, infiltré par la France d'en haut, l'écrivain. C'est le genre de roman où la classe ouvrière est décrite par un étudiant en intérim qui se félicite de ne pas en être, entre guillemets, puisque ce ne sera pas sa vie. C'est le genre de roman où la classe ouvrière est décrite par un narrateur d'une autre classe sociale, à même de décrypter et juger du fossé intersidéral entre lui et les autres. C'est le genre de roman qui décrit une tranche de la population invisible. Par exemple, pour Obnas, les femmes de ménage sur un ferry avec des horaires et des cadences infernales. Elle a pu les décrire correctement puisqu'elle les a infiltrées pendant 6 mois pour les espionner afin d'en faire un portrait juste et fidèle, même si la méthode est hautement discutable. Ici, ce qui unit les personnages de ce roman, Les Nuits d'été de Thomas Flaho, c'est la cité dont ils sont issus, les Verrières. C'est entre la France et la Suisse. Ce sont des Lorrains, amis d'enfance. Il y a Thomas, qui a décroché des études et n'a pas encore annoncé cela à son père ouvrier. Il y a sa sœur jumelle. Elle fait une thèse de sociologie sur le monde ouvrier transfrontalier, tout en s'encanaillant avec Mehdi, le copain de son frère, qui, pour éviter de faire les marchés avec son père, travaille à l'usine l'été comme intérimaire. Mehdi est à la fois son sujet d'étude et son nouvel amoureux. Heureusement qu'elle est là pour analyser ou être le témoin, car le reste du roman porte essentiellement sur la masculinité ouvrière de l'usine. C'est malgré le sujet très agréable à lire, c'est très bien écrit, et on découvre le monde de l'usine, l'usine Lacombe, une usine de pièces automobiles. Cette usine est omniprésente, elle agit tel un aimant qui structure cette vallée du Jura, qui inscrit les habitants dans une réalité sociale. Les ouvriers sont rebaptisés opérateurs, ça les rapproche des robots, des machines. Et même quand elle est fermée, l'usine reste un lieu de rassemblement, avant de finir en brasier. Les machines sont des personnages, celle de Thomas s'appelle Miranda. Il y a des accidents, le travail, bien qu'hypnotisant, demande de l'attention. Bref, on retrouve tout ce qu'il y a dans un roman qui parle de l'usine, même son démantèlement. Ça se passe en été, un été charnière pour ces 3 gamins. Donc c'est aussi un roman d'apprentissage, de choix, où les personnages doivent décider de leur vie future. C'est un roman à 3 voix, aucun n'est dupe. Pour leur daron, grandir, ça a été apprendre à rester en place, à pas faire de vagues. Mais pour Thomas et Louise, grandir, ça sera, et c'est, fuir le monde de l'usine en déclin. Ce n'est pas de l'autofiction, mais très largement inspiré de la propre vie de l'auteur, Thomas Flaho, qui, lui, a su faire fi du déterminisme social en écrivant ce 2e roman. C'est une manière de rendre justice aux darons, qui eux étaient ouvriers à l'usine, une espèce en voie d'extinction. Bref, c'est un auteur qui est presque un transfuge de classe, comme son collègue Lorrain dont j'avais fait une chronique « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Mangin au livre de poche. Et donc je sais comment classer finalement ce genre de roman. C'est de la littérature prolétarienne, qui rend hommage aux ouvriers d'antan, qui n'existent plus, et ont laissé la place aux invisibles, aux opérateurs intérimaires, précaire. Je vous recommande vivement Les Nuits d'été de Thomas Flaho, paru chez Point, une lecture marquante.
De retour en direct, on va se faire une dernière pause musicale avec de la drum and bass. C'est Daniel Avry qui sera sur la scène d'Ocar d'hiver dans la nuit de samedi 1er à dimanche 2 mars. Il sera alors près de 2h du matin. Un avant-goût. êtes bien sur les ondes de Radio Béton 93.6, c'est Des Poches sous les yeux, l'émission en direct de la bibliothèque Paul Carla au Sanitas. Il est enfin venu le moment d'interviewer celle sans qui nous ne serions pas ici, Géraldine Delage et Sonia Le Gall de la bibliothèque Paul Carla. Et on... Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Et merci de votre accueil. On est bien installé, central. Bon, le public est parti parce que c'est fermé, donc on va pouvoir parler tranquillement. On va commencer avec Sonia pour nous parler voilà, de la bibliothèque. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bibliothèque?
Alors, très bonne question. Déjà, elle est particulière parce qu'on y est. On est une petite équipe de 4 personnes. On est très investis dans ce qu'on fait, évidemment, comme nos autres collègues du réseau. Et ce qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est qu'on a un public... de fidèles. On a un lien avec les lecteurs qui est différent parce qu'on les suit un peu dans leur lecture, dans leur curiosité. On les accompagne énormément, notamment les familles aussi. Donc on a vraiment un rôle à la fois culturel et social auprès du public okay. Ici.
Le fait qu'on soit ici au cœur du Sanitas, ça donne une particularité sur votre mission.
Après je pense que ça peut s'étendre évidemment sur le réseau hein, des bibliothèques encore une fois, mais nous on le ressent plus fort ici, notamment parce qu'on a un vivier d'associations très engagé et qu'on développe de nombreux partenariats avec les associations et structures de la ville. On travaille notamment en section jeunesse avec le programme de réussite éducative par exemple, qui lutte énormément contre les inégalités sociales et qui cherche aussi à rendre le maximum de dignité à toutes ces familles et ces enfants. Et donc, en fait, on les accueille pour justement faire de la médiation autour du livre, leur montrer que ce lieu est ouvert et accessible à tous. Je le rappelle, c'est accessible et gratuit à tout le monde, qu'on soit ou pas abonné à la bibliothèque. Nos portes sont toujours ouvertes et on est toujours là et disponible pour informer et renseigner les gens, notamment du fait qu'on soit dans un centre... de vie sociale où on a d'autres collègues aussi qui travaillent avec nous.
Oui, parce que c'est aussi ça la particularité. On est sur un lieu à plusieurs usages citoyens. Tu évoquais votre relation avec le monde associatif, avec le monde scolaire. Tu peux nous détailler un peu, ça se traduit par quelle intervention, par quelle manifestation en particulier ?
Alors, en fonction des bibliothèques du réseau de la ville de Tours, on a une répartition géographique, donc on essaie de se répartir au maximum les écoles des quartiers, afin de répondre au maximum à la demande qui est très forte. Évidemment, nous, on va accueillir les scolaires quand on est fermé au public, du fait de notre espace on n'a pas une salle dédiée à l'accueil du public proprement pendant nos horaires d'ouverture, on le fait vraiment dans l'espace jeunesse. Ce qui réduit le nombre de créneaux qu'on peut proposer aux écoles, mais on est vraiment dans une vision d'équité pour que toutes les écoles du quartier avec lesquelles on travaille puissent au moins bénéficier d'un accueil dans l'année.
D'accord, donc ces accueils ont lieu le jeudi ?
Généralement le jeudi, des fois ça peut avoir lieu le mardi matin où D'accord. on est fermé, ou le vendredi matin aussi quand on n'est pas en réunion.
D'accord, et donc quel établissement ça concerne en particulier ?
Alors là on est sur 8 écoles partenaires, donc on essaye de proposer environ sur l'année, on est sur une centaine d'accueils.
Et sur quel niveau de scolaire ?
Le primaire et les maternelles, enfin l'élémentaire.
Voilà. Et qu'est-ce que tu préfères accueillir ?
Alors j'adore tout, les publics, honnêtement. J'ai la chance de travailler avec un collègue avec lequel on s'entend très bien et on est très animé et très curieux de développer des nouvelles formes d'accueil. On aime beaucoup travailler sur des accueils ludiques, mais aussi musicaux. Et puis on va aussi vers beaucoup sur la motivation et la demande des enfants, en fait. On voit avec eux qu'est-ce qui les intéresse. Et puis on s'adapte constamment sur nos accueils pour se renouveler à chaque fois.
Très bien. Et si on veut s'inscrire à la bibliothèque, on fait comment, Sonia ?
Alors c'est simple, vous venez nous voir, on est toujours souriante et à l'écoute. Et en fait, vous venez avec une pièce d'identité si vous êtes adulte. C'est gratuit si vous bénéficiez, par exemple, de votre statut, si vous êtes demandeur d'emploi ou bénéficiaire du RSA, c'est totalement gratuit.
Demandeur d'asile aussi.
Ouais, et pour les autres d'asile. Et pour les autres, c'est une cotisation de 12 euros l'année si vous résidez sur Tours. Autrement, si c'est hors métropole, c'est 25 euros.
D'accord.
Voilà. Et c'est annuel et c'est renouvelé tous les ans. Et pour les enfants, c'est gratuit et les étudiants également.
D'accord. Et donc, on est inscrit à la bibliothèque Paul Carla ou à toutes les bibliothèques de Tours à la fois ?
C'est là, on aime bien leur dire ça parce qu'en fait, quand ils réalisent qu'une fois qu'ils sont inscrits, ils peuvent bénéficier de 7 7 bibliothèques sur la ville. Et ils sont super contents, en fait.
Il n'y a pas un petit challenge entre bibliothèques en disant non, moi j'ai fait plus d'inscriptions que toi?
Bah, nous on sait qu'on est les meilleurs. Non, je plaisante. Mais en fait, on met en avant le réseau et le fait qu'on a une navette à disposition des lecteurs, et c'est ce qui permet de faire circuler les ouvrages. Et donc, on a cette force-là de pouvoir faire venir les ouvrages de partout.
D'accord. Bon, merci Sonia. Je me tourne maintenant vers Géraldine. J'avais une question, je ne sais pas si tu l'attendais ou pas. Compte tenu de votre public, est-ce qu'il y a un choix de livres particuliers que vous proposez à vos lecteurs?
Alors, pas de choix particulier. On essaye de toucher tous les domaines de la connaissance. Avec le projet de quartier qui travaille sur l'écologie, on a décidé aussi de développer un fonds écologie et développement durable. Donc ça, c'est des livres qu'on va mettre en avant, mais pas de fonds particulier pour la bibliothèque Paul, car là, on achète vraiment tous les domaines de la connaissance.
D'accord. Et donc là, dans l'équipe de cadre de la bibliothèque, vous êtes polyvalent ou chacun a une spécialité?
Dans les bibliothèques de quartier, d'une manière générale, on est en effectif réduit et du coup, on est amené à toucher à tout. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier, d'autant plus qu'ici, à Paul Carla, la bibliothèque est sur le même plateau, c'est-à-dire qu'il y a la section jeunesse avec la section adulte. Et même moi, si je suis rattachée au secteur adulte, eh bien, je prête quand même les livres aux enfants. Donc, ça nous enrichit énormément, en fait, tout ça.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir à écouter. Tu es venu avec une pile de livres.
Ouais.
Est-ce que tu veux bien nous en dire plus?
Donc, je suis venu avec un coup de cœur de fin d'année dernière. Accrochez-vous, hein, parce que le livre dont je vais vous parler est loin d'être joyeux, mais s'inscrit totalement dans une triste réalité. Donc, c'est un roman de Dalia de la Cerda qui s'intitule « Chienne de garde ». Donc Dalia de la Cerda, elle est journaliste et militante féministe et elle nous livre ici une première publication engagée et percutante. Chienne de garde, c'est le Mexique des cartels, des narcotrafiquants et c'est aussi les mises à mort perpétuées à l'encontre des femmes, les viols collectifs, les sévices conjugaux. C'est un Mexique carnassier et sans pitié, un monstre avide de sang et de chair féminine. Ces textes vraiment sont un uppercut littéraire. Je dis bien ces textes, car en effet, ce sont 13 textes qui sont lus, qui sont plus ou moins liés, 13 voix de femmes qui hurlent à la première personne, murmurent parfois ou déclament ce qu'être une femme au Mexique veut dire. On y croise une fille de narcotrafiquant, une tueuse à gages, une voleuse qui se fait passer pour un homme, un travesti, une sorcière. Certaines resteront en vie, mais beaucoup mourront. Les récits sont très durs, vraiment coup de poing. Certaines scènes sont à la limite du supportable. L'écriture orale et scandée de Dalia de la Cerda apporte beaucoup de réalisme et s'inscrit vraiment dans notre époque. Parallèlement, les textes sont teintés de magie, de superstition, de mauvais sort, et ça en fait un mélange réussi de contemporain et de traditionnel. Dans ce livre, la musique est également très présente et rythme la vie des personnages. Sans compter le romantisme mièvre des chansons d'amour en totale opposition avec la brutalité des relations femmes-hommes. Bref, j'ai tout aimé dans ces pages. C'est direct, ça va droit au cœur, ça prend aux tripes et ça donne à voir toutes les difficultés du Mexique, pays gangréné par la corruption, la drogue et les narcos. Ces femmes, pauvres ou riches, sont victimes du fait d'être femmes dans un pays machiste et violent. En tout cas, Dalia de la Cerda, c'est une autrice que je suivrai. Le livre est édité aux éditions du Sous-Sol, mais va paraître en poche début mars. Mais le mieux, c'est de venir l'emprunter à la bibliothèque Paul Carla.
Génial. Ben moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a rencontré une future chroniqueuse de Des Poches sous les yeux.
Je lis beaucoup de BD aussi.
Bon, alors Géraldine, tu avais prévu un deuxième bouquin pour finalement nous plomber sur le Mexique, mais tu as changé ton fusil d'épaule et je t'en sais gré. Et tu as préparé une collection jeunesse.
J'ai préparé une collection jeunesse. C'est vraiment un coup de cœur pour cette collection. C'est Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une collection de biographies illustrées pour découvrir la vie passionnante d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire et qui incarnent des valeurs fortes. Les textes sont courts et bien documentés, faciles à lire sans être édulcorés. Pour l'instant, il y a 22 titres de disponibles. Ça va de Joséphine Baker en passant par Simone Veil, Nelson Mandela ou encore Maya Angelou. Les derniers titres parus sont sur Umm Kulthum et Anne Frank. Et je trouve que le livre en tant qu'objet, il est vraiment chouette. C'est un petit format avec une couverture à effet toile. Les illustrations sont douces et colorées. La narration est fluide et simple pour la compréhension des plus jeunes pour une première approche. Les ouvrages se terminent tous par une chronologie, un glossaire et un index. Je dirais que ça peut être lu à partir de 8 ans et même plus, parce que moi, en ayant bien plus, je les dévore.
Bon, merci, merci Géraldine, merci Sonia pour votre accueil et pour nous avoir témoigné de votre engagement qui fait plaisir à entendre.
Merci à vous.
Merci.
Et quelle heure est-il ? Ça ne serait pas l'heure du feuilleton radiophonique, pardi ? La Bourboule Parano, dont on vous laisse écouter le 15e épisode.
Vous connaissez La Bourboule ? Eh ben vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule Parano. Le feuilleton made in béton.
Vous faire un résumé ? Pff, à quoi bon ? En revanche, je peux vous donner des conseils. Comme ça, j'ai l'impression de me rendre utile. Un conseil, si vous allez à La Bourboule, pour ne pas passer pour des cons, vous avez intérêt à ne pas confondre Georges Roustaki et Georges Moustaku. Et surtout, ne mentionnez jamais, mais alors jamais, Georges Moustaki. Compris ? À part ça, si vous y croisez Johnny Hallyday, saluez-le de ma part.
Bon, c'est pas loin du tout la pétaudière. On peut y aller à pied si vous voulez.
Excellente idée. En plus, il fait doux ce soir.
Ah ouais, la nuit promet d'être belle.
Parce qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse.
Bravo Chicken, tu connais tes classiques ?
C'est grâce à ma cousine.
C'est une fan d'Igelin ?
Elle présente la météo sur Télé Vierzon. Vous l'avez peut-être déjà vu.
Je t'avoue que je regarde rarement Télé Vierzon en fait.
Vous ne voyez pas une jolie petite rousse ?
Qui se tape une mousse au chocolat ?
Bah non, elle présente juste la météo.
Ah ah, formidable, j'adore.
Je connais ça.
Dans la salle d'attente de la gare de Nantes, j'attends.
Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en chialant.
Qu'est-ce que je donnerais pas pour être au chaud
dans les bras de cette fille de Saint-Malo. Qui serrait son matelot sur le quai.
Vous allez fermer vos gueules, bande de voyous !
La 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 la, j'ouvre un magazine et je vois une jolie petite rousse qui se tape une mousse au chocolat.
Il y a des gens qui essaient de dormir !
Ses lèvres gourmandes m'invite à en prendre avec elle. Juste une cuillère avant sa grand-mère me revienne.
J'appelle les gendarmes !
Dans la salle d'attente de la gare de Nantes, j'attends. La 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 la, juste le retour du printemps.
Oh, il se passe pas de fusil à la boîte de grossesse !
Foncez !
Attendez-moi, je peux pas courir, là c'est le matongue à des fées.
Vas-y, monte sur mon dos, je te porte.
Cette femme a la force du gorille à dos argenté. Et là...
Tu vas arrêter toi avec tes apartés à la con ? À qui tu parles à la fin ?
Bah aux auditeurs. Hein.
Foncez, je vous dis ! Putain, c'était moi une, hein. Faut vraiment qu'il se calme, Mimile. Avec son gros sel, un jour il va finir par blesser quelqu'un. Bon enfin, ça y est, c'est le principal. Tiens, salut Georges, c'est toi qui fais les entrées ce soir ? Je te présente pas, hein, tu connais déjà.
Salut Georges.
Salut. Wow, il y a une ambiance de folie ici.
Bon alors Georges me dit que Georges n'est pas encore arrivé. Il a une réunion chez Georges avec Georges, mais il ne devrait pas tarder. Vous voulez boire quelque chose ? C'est la maison qui régale. Un petit bialou ?
Volontiers, pour toi aussi Chicken.
Et comment ?
Alors, par contre, je veux bien que tu descendes de mon dos maintenant qu'on est arrivé.
Ok.
Le prêtre, un petit bière ? Mais le prêtre, qu'est-ce que tu fais ?
Bah, je danse.
Mais je vois bien.
J'assure, non?
C'est un peu désarticulé.
Oh, j'adore danser.
Plutôt Yann Curtis que John Travolta, mais c'est pas mal.
T'as vu ça, hein?
Ouais, pas mal du tout. Tu peux me dire que tu danses comme un dieu, hein?
Non, bah ça serait malheureux, j'ai vécu 10 ans avec Caroline Carlson.
Elle danse le disco, Caroline Carlson?
Bah elle danse tout. Le disco, la lambada, le tango corse, la danse des canards, tout, je te dis. C'est un véritable génie de la danse.
Ah, je savais pas ça.
C'est elle qui m'a tout appris.
Tu m'en as jamais parlé.
Eh ouais, tu ne sais pas tout de moi, ma petite fille.
Bon alors le prez, je préfère te le dire franchement, je t'aime bien, tu vois. Tu es sympa comme mec, plutôt beau gosse dans ton genre et même souvent assez marrant quand tu veux. Mais la prochaine fois que tu m'appelles ma petite fille, je te jure, je te fais remonter les couilles d'un coup de genou si puissant que tu pourras t'en servir de protège-oreille. Et tu n'auras même pas le temps de dire en aparté « Pigre, cette femme a la force de frappe de Zlatan Ibrahimovic et la détente de Kylian Mbappé. » C'est bien compris?
Désolé, je t'entends pas, je suis emporté par la fièvre du samedi soir.
Ouais, c'est ça.
Et la patronne, regarde qui j'ai trouvé au bar.
Oh, Stella. Quelle bonne surprise.
Salut, ça va?
Henri n'est pas avec toi?
Oh non, le pauvre. Il est resté à la maison pour sucer du gingembre.
Ah, quel dommage.
Pour sucer qui?
Ben, du gingembre. Pendant le concert à Issoudun, il a un peu trop forcé et s'est carrément cassé la voix.
Cassé la voix.
Ah non, mais là, c'est trop.
Ouah, la patronne. Tu viens danser avec moi, c'est cool. Vas-y, shake ton booty, ma grande. Shake, shake, shake. Ah, aïe, non, pas les cheveux, non.
Mais dis donc, Stella, je me demandais ton truc, là, ton casou supersonique.
Non, ultra harmonique.
Ah, pardon.
Le nom, c'est casou ultra harmonique.
Ok, ça fait longtemps que t'en joues?
Ah, j'en ai toujours joué. Mon cul, c'est comme une part de moi-même, tu vois.
Oui, oui, je vois. T'as appris comment?
Bah, le cul, mais ça s'apprend pas vraiment. Et ça se vit. Bah, tu l'as ou tu l'as pas? Bah moi, je l'ai.
C'est pas trop dur?
Bon non, non, non. Il faut juste le sentir.
Sentir le cul?
Alors, ça n'a pas l'air, mais c'est un instrument très technique. Parce que si le souffle est trop fort, mais tu peux carrément te faire péter la rondelle. Et là, mais c'est la catastrophe. Ça fait un bruit, mais horrible, quoi. Donc, des fois, quand tu sens venir une note un peu puissante, bah, le mieux, c'est de mettre ton doigt dans le trou.
Dans le trou?
Bah oui, dans le trou du cul. Pour étouffer un peu le son. Mais pas trop loin, hein, parce que sinon, tu risques de rester coincé. Et après, je peux te dire, ça te fait pas du bien.
Ah oui, d'accord. C'est l'art technique, effectivement.
Quoi? Quoi?
Qu'est-ce qui se passe?
C'est le prez. Il a voulu faire un grand écart facial et il est resté coincé.
Ah merde! Ça va ou quoi?
Mais non, ça va pas. La patronne vient de te le dire, je suis coincé.
Attends. On va t'aider. Tiens, la patronne, prends-lui l'autre bras.
Ouais.
À trois, on le relève. À la une.
Ouais.
À la deux.
Non, vous ne relevez rien du tout.
Non, ce qu'il faudrait, c'est couper son pantalon. Il est trop serré.
Quoi? Mais n'importe quoi, il est pile à ma taille.
Arrête, il te boudine à mort. On n'a jamais osé te le dire, mais tu ressembles à Demis Roussos déguisé en saucisse de morteau.
Il te boudine tellement que t'as les chevilles toutes bleues.
Oui, bah c'est parce que j'ai trop dansé.
Georges, amène une paire de ciseaux.
Non, pas question. Moi vivant, personne ne découpera mon pantalon en cuir de caribou. C'est celui que portait Neil Young quand il a composé Heart of Gold.
Attendez, mais j'ai une meilleure idée. Je vais lui jouer un air de cul pour lui transmettre l'énergie de la musique astrale.
Oh non, c'est bon, je suis debout.
La bourboule parano. Le feuilleton, made in béton.
Et voilà, et pour les gourmands, sachez que la totalité des épisodes de cette première saison de la Bourboule Parano est disponible sur le site de podcast de votre radio préférée, podcast-radiobéton.com. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle émission de Des Poches Sous les Yeux, l'émission. Merci à Véro pour la technique, merci pour les intervenants. Je rappelle que Michel Ambarek, je rappelle pas, je vous informe que Michel Ambarek sera le 5 avril à la boîte à livres pour une rencontre. Un grand merci pour sa venue. Un grand merci pour l'équipe de la bibliothèque Paul Sarlat, Carla pour son... Carla, n'importe quoi, pour son accueil. Donc, Paul Carla, qui était Paul Carla, hein? Qui était Paul Carla? C'était adjoint à la culture, bravo, vous avez gagné votre poids en livre de poche. Cette émission sera rediffusée mardi 25 février à 18h. On se retrouve le 29 mars au Théâtre Olympia à l'occasion de l'incontournable Festival Wet. Et d'ici là, si vous préférez la musique, on vous attend le week-end prochain au Point Haut et au Soleil pour la première édition d'Ocar d'hiver. En attendant, allez chez vos libraires préférés, allez dans vos bibliothèques municipales, allez où vous voulez et lisez.
Des poches sous les yeux, l'émission.